crois sincèrement que le tableau est autant fait par le regardeur que par l'artiste.
Les regardeurs.
Come and go with me.
Ils ont marqué notre sensibilité en découvrant ou commentant des chefs-d'œuvre qui depuis appartiennent à l'histoire de l'humanité. Ce sont les regardeurs. Dans une exposition au Jeu de Paume à Paris, le philosophe, regardeur, observateur, scrutateur Georges Didier Huberman, notre invité aujourd'hui, a choisi de présenter un ensemble d'œuvres réunies autour du geste, d'un geste d'espérance et de résistance à la fois, le geste du soulèvement. Pour en parler, nous allons partir de l'observation d'une œuvre symptomatique, un petit dessin au fusain de 9,5 cm par 12,5 cm, réalisé par l'artiste Gustave Courbet, daté de 1848. Est conservé au musée Carnavalet à Paris. Son titre, Révolutionnaire sur une barricade, projet de frontispice pour le salut public.
On se soulève, c'est un fait. Et c'est par là que la subjectivité, pas celle des grands hommes, mais celle de n'importe qui, s'introduit dans l'histoire et lui donne son souffle. Michel Foucault, Inutile de se soulever, 1979.
Cette petite œuvre de Courbet est un dessin rapide, comme emporté par l'urgence de faire et d'être efficace. De l'ombre, de la fumée et de la lumière, le tout embrumé par le crayon gras. Le personnage au centre, vêtu d'une blouse comme celle des ouvriers et artisans de l'époque, est coiffé d'un chapeau haute forme, bourgeois et inattendu. Il est seul. Debout, la jambe gauche avancée est posée sur une pierre ou un ballot, la droite est posée un peu plus bas comme s'il surmontait la barricade pour partir à l'assaut. Il va foncer vers l'intérieur de l'image et il nous regarde comme pour nous entraîner. Son bras gauche tient un fusil et le droit un drapeau uni. Parallèle à lui, la roue d'une charrette, peut-être aussi la roue de l'histoire, émerge de l'amas. Dans les fumées suggérées par le papier, sali, apparaissent au loin des baïonnettes et derrière le héros anonyme, une ou deux silhouettes. L'impétuosité du dessin démontre la fougue ou la colère de celui qui l'exécute. Mais curieusement, contrairement à de grands tableaux militants précédents, je pense à La Liberté guidant le peuple de Gênes de la Croix, qui font justement apparaître le peuple soulevé, le personnage, là, est seul. Et le dessin est recadré par un trait qui circonscrit l'image, empêchant de s'y associer. Ces particularités seront modifiées par le graveur qui utilisera cette source pour le frontispice du Salut public, la revue créée par Baudelaire, Taubin et Champfleury. Là, la ville, les immeubles apparaissent, la foule surgit, le révolutionnaire n'est plus seul, le drapeau devient tripartite, la vague s'élève.
L'heure est venue où je retrouve mes amis assemblés dans la nuit, pour le silence sans sommeil. Et le beau mot de « liberté ». On le murmure, on le bredouille, jusqu'à la nouveauté inouïe. Goethe, le réveil d'Épiménide, 1815.
Pour évoquer le dessin de Courbet et en élargir la signification, j'ai la chance de recevoir aujourd'hui Georges Didier Huberman. Vous le connaissez presque tous, Georges Didier Huberman est un philosophe et un historien de l'art, maître de conférences à l'École des hautes études en sciences sociales depuis 90, ça fait 25 ans, et il a reçu le prix Théodore Adorno qui récompense les contributions exceptionnelles dans les domaines de la philosophie, de la musique, du théâtre, du cinéma. Je vous remercie d'être là, Georges Huberman.
Bonjour, merci à vous.
Vous êtes l'auteur d'une cinquantaine d'ouvrages et d'essais mêlant philosophie et histoire de l'art, comme L'œil de l'histoire, composé en 5 tomes, publié entre 2009 et 2015. Et en fait, une partie de votre travail se divise, si je peux me permettre de le suggérer, et n'hésitez pas à me corriger, entre des travaux d'analyse de l'image, d'approfondissement esthétique, dans lequel l'œuvre devient un élément de la connaissance de l'art et de l'œuvre et de ses significations, et une autre partie qui est plutôt l'œil de l'histoire, c'est-à-dire une façon de voir le monde à travers les œuvres. Est-ce que cette division est plausible ?
Ben, si vous la lisez comme ça, peut-être. Moi, je n'ai pas du tout cette impression. Je pense juste que c'est le type de questionnement qui se modifie, mais l'attention aux œuvres, par exemple, le dernier des volumes de L'œil de l'histoire, en fait, il y a 6 volumes, c'est sur Eisenstein, et il y a des analyses aussi précises que possible, hein, de certains plans, de certains photogrammes, de certains textes. Enfin, moi, pour moi, tout est lié. Hein. D'ailleurs, je vous remercie beaucoup parce que vous venez de faire une sorte de montage, là. Vous décrivez un dessin magnifique, mais en même temps, vous faites un montage avec 2 textes, celui de Foucault et celui de Goethe. Alors, on pourra en parler si vous voulez, mais ça m'intéresse beaucoup.
Alors, juste un petit mot de plus, peut-être, pour rappeler les travaux récents et en cours. Il y a eu l'exposition extraordinaire qui a été présentée à Madrid, Atlas, ou Comment porter le monde sur son dos. On en reparlera certainement au cours de l'émission, parce que c'était une œuvre décisive, je pense, enfin un travail décisif. Et vous avez été aussi co-commissaire de l'exposition Nouvelle histoire de fantômes, au Frénois tout d'abord, et ensuite au Palais de Tokyo en février 2014, avec l'excellent photographe Arnaud Giesinger. Aujourd'hui, vous êtes le commissaire de l'exposition intitulée Soulèvement. Vous avez également ajouté, je pense, un livre, à moins que ça ait été un titre originel, au titre de l'exposition Atlas, le mot « Le gai savoir inquiet ».
Oui.
C'est intéressant, cette inquiétude, parce qu'elle semble correspondre à un aspect de regard politique de votre travail à partir de ces œuvres.
Absolument. Il y a 2 auteurs qui m'ont marqué beaucoup, enfin beaucoup plus que ça, mais je parlerai juste de 2. L'un c'est Georges Bataille. Oui. L'un c'est Georges Bataille. J'avais consacré un livre à son activité de mise en pratique des images, de montage des images dans la revue Documents. Et le sous-titre du livre c'était Le gai savoir visuel, selon Georges Bataille. Donc il y a cette idée de gai savoir. Parce que le triste savoir, c'est le savoir qui s'enferme dans la chose qu'on essaye de connaître. Le gai savoir, c'est un savoir qui fait exploser les cadres. C'était parfait pour Georges Bataille. Une fois arrivé dans Abby Warburg, qui est pour moi le grand historien de l'art qui a changé tout, hein, comme Freud a changé les choses en psychologie, c'est voilà. Eh bien, en effet, cette forme de l'Atlas, je l'avais intitulée « Le gai savoir inquiet ». Alors, inquiet parce que la fin de l'Atlas de Warburg, c'est une inquiétude politique. Les 2 dernières planches de son fameux Atlas d'images, qu'il a fait à la fin de sa vie, sont consacrées à, je dirais, une inquiétude politique. Alors, bon, qu'est-ce que je fais ? Après avoir rendu hommage à Warburg en faisant des livres sur la nymphe, par exemple, c'est très agréable, me fallait aussi rendre hommage à Warburg en prolongeant cette inquiétude politique. Vous savez qu'il y a en Allemagne, je pense, un des courants d'histoire de l'art les plus intéressants aujourd'hui. C'est un courant qui s'intitule Iconologie politique, dans la suite de Warburg, des gens comme Martin Warnke, donc des élèves de Warburg à plusieurs générations de distance, Horst Bredekamp, les gens comme ça.
Parmi tous les auteurs que vous citez, en plus des 2 auteurs essentiels que vous venez d'indiquer, oui. Est-ce qu'il n'y en a pas un troisième qui serait Walter Benjamin ?
Walter Benjamin, c'est celui qui permet le mieux de comprendre et l'un et l'autre. C'est le plus intelligent de tous, Walter. Benjamin, comme on devrait prononcer son nom. Benjamin, c'est une clé, pour moi, intarissable. À chaque fois que je relis un passage de Benjamin... Alors, Benjamin, c'était un grand lecteur de Goethe.
Et nous venons d'entendre Goethe.
Voilà, j'aime beaucoup.
Et vous avez aimé que nous mettions en succession la description de ce dessin de Courbet et ce poème de Goethe.
Alors, je voudrais préciser aux auditeurs que ce poème de Goethe, où donc vous avez cette idée qu'à chaque fois qu'on reprononce le mot liberté, qu'on le murmure, qu'on le bredouille, eh bien, il est d'une nouveauté inouïe. Il faut savoir que Goethe, comme d'autres classiques et romantiques allemands, était enseigné par un professeur de philosophie à ses élèves à Munich dans les années 40. Et ses élèves, eh bien, c'était le groupe qu'on appelle le groupe de la Rose Blanche, c'est-à-dire des étudiants munichois anti-nazis. Comme on le sait, ces jeunes gens ont été capturés par la Gestapo et décapités. Le prof de philo aussi. Mais pourquoi le Goethe y reste? Parce que aussi, il s'est transmis dans ce qu'on appelait les tracts de la Rose Blanche. Parce que ces jeunes gens envoyaient des tracts. Donc, ce poème, il a fini dans un tract.
Ce qui vous va très bien, parce que vous avez consacré au tract un des chapitres de votre exposition.
Tout à fait.
Et le tract, c'est un élément de la construction de l'art moderne, d'une certaine façon.
Ah, le tract, bah oui, depuis les dadaïstes, mais même avant, hein, parce que pour revenir au Courbet, le Courbet, il a été dessiné au fusain, comme vous avez bien dit. Il se retrouve regravé au frontispice du Salut Public, et puis vous avez la première phrase du Salut Public, c'est, si je me souviens bien, hein, « Vive la République !» C'est signé Baudelaire, quand même. Voilà. Après, Baudelaire va développer son propos dans un texte que je trouve absolument sublime. Hein. C'est un texte où il parle de la... Il parle en poète, hein, dans une feuille politique. Il parle de la beauté du peuple libre. Et il dit « Un homme libre, quel qu'il soit, est plus beau que le marbre ». Ça veut dire aussi que l'art, pour Baudelaire, à ce moment-là, c'est moins important, l'art, le marbre, hein, c'est moins important que la beauté du geste libre.
Le texte commence ainsi « Depuis 3 jours, la population de Paris est admirable de beauté physique ». Et c'est extraordinaire parce que effectivement, il dit un homme libre, quel qu'il soit, est plus beau que le marbre. C'est ce que vous disiez, Georges Duberman. Et il n'y a pas de nain qui ne vaille un géant quand il porte le front haut et qu'il a le sentiment de ses droits de citoyen dans le cœur.
Bon, bah, voilà. Vous aviez le texte déjà. Hein, c'est magnifique que vous ayez mis de côté ce texte parce que, en effet, pour moi, il est crucial.
Les circonstances sont assez particulières parce que Baudelaire donc essaye de vendre ce texte, lui-même se déguise en vendeur de tracts, c'est ce que vous disiez au fond, sachant que les personnes qui en avaient été chargées sont parties avec la Gazette et la maigre fortune que celle-là leur avait procurée, et donc il y en a eu extrêmement peu, mais ça nous marque encore aujourd'hui, des années plus tard.
Pour revenir à ce que vous disiez à l'instant, c'est vrai que la forme tract est une forme tout à fait cruciale. Elle existe aussi aujourd'hui, puisque même à travers les réseaux sociaux, en fait, on transmet des tracts d'une certaine façon. Je dois dire que dans ma recherche sur les soulèvements, j'ai eu une rencontre très intéressante avec une dame que je remercierai jamais assez, Madame Turlet, Pierrette Turlet, qui travaille à la Bibliothèque nationale, et qui m'a signalé l'existence de 12 énormes recueils de tracts clandestins de l'époque de l'occupation nazie en France. Elle a d'ailleurs publié un ouvrage auquel j'ai participé. Ce sont des facsimilés de tracts de la résistance. Et donc, si vous voulez, on trouve dans ces tracts toutes les formes littéraires, mais même aussi la question de l'illustration. La question, ce ne sont pas seulement des mots d'ordre. Il y a aussi des poèmes, il y a des chansons, il y a de l'ironie, et c'est absolument fascinant. Je crois qu'il y a 12 000 tracts dans une collection. J'ai oublié le nombre exact, mais c'est une énorme collection qui est à la Bibliothèque nationale.
Et une création poétique, parfois.
Oui, tout à fait.
Une puissance d'image, parce que le tract fait image.
En mai 68, Maurice Blanchot demandait à Derrida « Mais tu me ferais pas un tract ?» Je ne sais pas si Derrida l'a fait, mais en tout cas, il y avait cette idée, oui, bien sûr. Mais Baudelaire, c'est un homme qui a décidé à un moment donné de participer à cette espèce de production, en fait, littéraire, qui est en même temps un geste politique.
Alors, c'est le Baudelaire déjà admiré, mais pas encore connu. C'est avant les Fleurs du Mal, n'est-ce pas? On est en 48. Et c'est pareil pour Courbet. Courbet est encore quelqu'un qui vient d'arriver de Franche-Comté, mais ils font groupe déjà, et ils assistent à ça de façon terrifiée.
Tout à fait. Et puis c'est très beau de voir associer ce qui sera le réaliste par excellence, hein, Courbet, et le romantique par excellence, d'une certaine façon, Baudelaire. Donc, à ce moment-là, les distinctions de usuelles de l'histoire des styles n'entrent même plus en cause. D'ailleurs, vous me permettez de revenir une seconde sur votre description du dessin de Courbet. Ce qui est frappant, vous l'avez fort bien décrite, cette image. Et alors, du coup, ça pose la question, je l'ai sous les yeux là, c'est à la fois un gros plan documentaire, d'une certaine façon. Le personnage, en effet, est isolé derrière ses flous, mais c'est comme si il avait mis la focale sur... voilà, il y a un côté documentaire, et il y a évidemment, c'est là où il est très fort, il y a un côté complètement allégorique. Qu'il soit à la fois vêtu comme bourgeois et comme prolétaire est une allégorie politique.
Il rassemble en lui-même les deux catégories.
Il y a des éléments formels auxquels moi j'attache beaucoup d'importance, mais moi, je dis moi, c'est idiot, c'est pas seulement moi, c'est beaucoup de gens. C'est-à-dire le drapeau. Le drapeau et la draperie. Alors il y a tout ce motif extrêmement important, moi qui m'a donné une sorte d'inspiration.
Parce que vous avez travaillé sur la draperie en général.
Sur
d'autres sujets, sur la nymphe en particulier.
Oui, mais la draperie, bien sûr, j'étudie Botticelli, je m'aperçois que les robes se soulèvent. Les robes, les draperies, voilà. Je regarde la Victoire de Samothrace, la draperie se soulève. Et je regarde la Liberté guidant le peuple de Delacroix, nous avons à la fois une draperie érotique, hein, une draperie à la grecque, et une draperie politique. Il faut savoir quand même que tout ça aboutit à Eisenstein, qui a réfléchi sur ces images-là exactement. Eisenstein a commenté la Liberté guidant le peuple, il a même dit « c'est une version... » politique du radeau de la Méduse, qui est une version désespérée de la draperie. Hein, oui. Le radeau de la Méduse, les gens agitent des draperies de façon désespérée. Eisenstein est fasciné par justement ce double côté érotico-politique, en quelque sorte, de la Croix. Et puis finalement, si vous regardez par exemple le cuirassé Potemkin, il n'y a que des draperies. C'est-à-dire au début, les matelots sont sous un drap qu'ils soulèvent, c'est le premier geste de soulèvement. Il y a évidemment le drapeau rouge à la fin, mais entre-temps, il y a les fichus des vieilles femmes qui sont tellement en colère dans leur deuil qu'elles arrachent leur châle. Donc draperie est un outil formel fantastique, seulement depuis les Grecs pour parler des dieux, mais aujourd'hui encore pour parler des soulèvements. Voilà.
Le vent qui emporte ces draperies, c'est le vent de l'histoire, c'est le souffle de la passion, c'est le vent de la révolte. Qu'est-ce que vous en pouvez en dire ?
Eh bien, je dirais qu'il y a une perpétuelle allégorisation de ces mouvements de l'histoire. Alors, il ne faut pas employer le mot allégorie justement au sens pauvre. Il faut employer le mot allégorie dans un sens extrêmement fécond, et c'est là que Walter Benjamin nous aide beaucoup, hein, puisque il a fait beaucoup de travaux sur cette question de l'allégorie. Il est absolument frappant de voir, par exemple, chez Victor Hugo, qui est à la fois un grand poète et un grand homme politique. Hein. Je veux dire, c'est quand même... il a fait suffisamment d'années d'exil, il a payé de son exil ses positions politiques, il a fait les fameuses pétitions contre la peine de mort, qui sont d'ailleurs dans l'exposition, il y a plein de choses comme ça. Ce qui est tout à fait frappant chez Hugo, et pour revenir sur ce cercle désir, disons, quand je parle de la nymphe ou de la liberté guidant le peuple qui montre son sein, hein, quand même, désir et puis ce vent de l'histoire, c'est que Victor Hugo, chaque fois qu'il décrit une passion personnelle, une émotion, en particulier amoureuse, il la décrit comme si c'était une tempête. Chaque fois qu'il décrit une tempête dans l'océan, il la décrit comme si c'était un acte sexuel. Et chaque fois qu'il décrit une émeute, et là il y a des sublimes pages dans Les Misérables par exemple, il les décrit à la fois comme un mouvement de désir et comme un ouragan, comme une tempête. C'est-à-dire que l'invention poétique réunit tous ces éléments. C'est pour ça que le début de cette exposition s'intitule « Éléments ». Il n'y a que des choses qui volent.
Il y a ce qui permet une érotisation du collectif.
Il faudrait peut-être pas employer le mot érotisation comme on emploierait le mot esthétisation, parce que évidemment c'est ça qu'on va me renvoyer ou éventuellement légitimement hein, m'interroger oui. ou oui. me critiquer. D'ailleurs, j'ai un débat un petit peu avec ça, avec Jacques Rancière. Jacques Rancière, il aime pas trop Victor Hugo, il aime Flaubert, donc il aime pas trop ce lyrisme. Moi, je suis très lyrique, en fait, mais je pense que, voilà, Eisenstein était très lyrique. Voilà, je suis plutôt du côté d'une sorte de roman, ce que Michael Lévy a magnifiquement appelé dans des travaux, moi, qui me guide beaucoup, le romantisme révolutionnaire, en fait, d'une certaine façon. C'est critiquable, on peut dire, oulala, mais vous laisser emporter par votre voilà par ce mouvement lyrique.
Oui, mais moi, comme les artistes l'ont fait. Comme oui, Einstein, mais moi, c'est un lyrisme absolu.
Mais je pense que le lyrisme, il est interne, il est intrinsèque à ces mouvements. Il n'est pas du tout plaqué, comme on dirait. Donc, si vous dites une poétisation ou une esthétisation, c'est comme vous dites, vous allez plaquer de la beauté sur des mouvements de foule, etc. Mais ce que dit Baudelaire, c'est que la beauté, elle est interne. La beauté et le lyrisme, il est interne à ces mouvements politiques.
Est-ce que je peux rajouter que le fait que j'ai reçu tout à l'heure le catalogue, vous avez eu la gentillesse de me l'amener, le catalogue qui vient de sortir, qui sent encore bon la colle, qui est magnifique. Oui. Et donc, il y a un des chapitres du catalogue qui s'appelle « Par geste intense oui. », entre parenthèses. Et le dessin que nous venons d'examiner et de décrire attire... entraîne par le geste du personnage la foule qu'on imagine être derrière. Et vous l'avez associé à une photographie de Willy Ronis, à d'autres photographies de Gautreau, par exemple, ou bien de Gilles Caron, où chaque fois on a l'impression que les gestes entraînent. Est-ce que c'est pas ça aussi ce qui est entraînant, c'est cette sensualité de l'aventure, non, aussi?
Oui. On revient ici à Warburg qui disait... Il faut voir les choses à travers ce qu'il appelait les pathos formels, c'est-à-dire les formules de pathos, c'est-à-dire en fait des espèces de fossiles vivants de gestes. Il est évident que quand on se soulève, on a plutôt tendance à lever les bras. C'est tout bête. On lève les bras. Donc il y a en effet dans l'exposition toute une section
les
bras
aussi
qui se lèvent.
Lèvent les bras.
Pardon ?
Les ménades aussi lèvent les bras.
Oui, on pourrait dire aussi, les nazis aussi lèvent les bras. Mm. Ça pose une question de ne pas faire des soulèvements une valeur absolue, et parce qu'il y a des soulèvements fascistes. La marche sur Rome, c'est un soulèvement fasciste. Bien sûr, moi, je m'intéresse à des soulèvements qui me sont plus sympathiques. Notamment, si vous tournez la page du catalogue, vous allez voir une photo incroyable. C'est la population de Guernica qui lève les bras et qui... en quelque sorte, manifeste, mais au profit d'une reproduction du tableau de Picasso Guernica. Ils n'ont pas eu la possibilité de faire venir le tableau. On leur met dans leur village une reproduction du tableau et ils l'acclament comme si c'était... C'est magnifique.
Ça, c'est magnifique, c'est très émouvant et c'est très tard parce qu'on est en 77.
Tout à fait.
Donc, c'est des dizaines d'années plus tard, oui, ils ont le symbole de ce qu'a été leur... ce qu'ont vécu leurs parents, etc. Alors, je vous propose d'écouter, cher Georgi Duberman, à présent, un extrait d'un très beau texte d'Henri Michaud, dont vous avez fait la quatrième de couverture de votre catalogue. Je viens de le découvrir.
Une confiance d'enfant. Une confiance qui va au-devant, espérante, qui vous soulève. Confiance qui, entrant dans le brassage tumultueux de l'univers, devient un soulèvement plus grand. Un soulèvement prodigieusement grand, un soulèvement extraordinaire, un soulèvement jamais connu, un soulèvement par-dessus soi, par-dessus tout, un soulèvement miraculeux qui est en même temps un acquiescement sans borne, apaisant et excitant, un débordement et une libération, une contemplation, une soif de plus de libération, et pourtant à avoir peur que la poitrine ne cède dans cette bienheureuse joie excessive qu'on ne peut héberger, qu'on n'a pas méritée, joie surabondante dont on ne sait si on la reçoit ou si on la donne, et qui est trop, trop. Hors de soi, aspirer plus encore qu'aspirant dans une rénovation qui dilate ineffablement, de plus en plus. Henri Michaud, L'infini turbulent, 1917.
Vous êtes sur France Culture dans l'émission Les Regardeurs. Nous avons la chance d'être avec Georges Didier Huberman qui ouvre dans quelques heures une grande exposition au musée du Jeu de Paume à Paris qui s'appelle Soulèvement. Nous venons d'entendre un texte de Michaud extraordinaire qui vous rejoint sur le titre en tout cas de cette exposition. C'est une définition. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on pense que le soulèvement tel que vous l'imaginiez n'est que le drame. Et dans le texte, on entend que c'est aussi la joie.
Principalement la joie. Oui, bien sûr. Se soulever, c'est ouvrir l'espace. Qu'est-ce que c'est le contraire d'un soulèvement ? C'est une soumission. Le contraire du soulèvement, c'est la chape de plomb. Et se soulever, c'est... Tu prends ta chape de plomb et tu la jettes par-dessus tes épaules, quoi. Confiance d'enfant, dit Michaud. Confiance. Mais c'est magnifique. Moi, je trouve souvent, je suis frappé par le pessimisme de l'époque. On vit à la fois dans une époque où, justement, vous le savez fort bien, cher Jean, un des maîtres mots, c'est le mot soumission. Je parle évidemment du titre du livre de Houellebecq. Ce mot va de pair avec, me semble-t-il, une époque de très grand pessimisme politique. Et curieusement, il va certainement de pair avec le point de vue résolument individualiste, ce que j'appellerais tous ces romans selfie, quoi. Le selfie, le fait que je suis seul avec moi-même, et puis derrière moi, il y a éventuellement un décor, ça peut être la Joconde, ça peut être la Tour Eiffel, mais bon, je suis moi avec moi. Ce dont parle Michaud, mais c'est très beau parce qu'il en parle depuis une très grande solitude. Quand il écrit ça, il est tout seul. Il fait... De quoi parle-t-il précisément dans ce texte, puisque je l'ai extrait d'un texte? Il semble parler juste du soulèvement, mais de quoi il parle? Il parle d'une expérience de psychotrope, quand même. Donc, c'est solitaire, il y a un côté d'une expérience avec les limites, mais cette solitude, grâce au mouvement du soulèvement, cette solitude devient foule. Il dit ailleurs, je suis une foule. Ça rejoint les thèmes de Deleuze et tout ça. Ça veut dire que ce mot de soulèvement, c'est un mot, pour moi, de l'espoir politique. Je ne veux pas dire qu'il faut tout casser. De toute façon, je ne suis pas quelqu'un qui est... Je n'ai pas envie de donner des leçons de politique. Je ne suis pas un philosophe politique. Je ne suis pas Alain Badiou. Je ne sais pas faire ça, moi. Mais en revanche, ce que je peux observer, c'est comment... Ce mouvement-là, c'est l'indice du fait que notre désir, il est indestructible et il est malgré tout, c'est-à-dire malgré cet état de soumission généralisée où, bon an, mal an, on veut nous mettre.
Êtes-vous sûr, Georges Huberman, que vous n'êtes pas aussi un philosophe politique? Vous commencez quand même votre introduction absolument merveilleuse en disant « Au moment où j'écris ces lignes, mars 2016 », quelques 13 000 personnes fuyant les désastres de la guerre se trouvent comme mises aux arrêts, quasiment parquées à Idoménie, au nord de la Grèce. Un peu plus loin, vous dites, que devient le destin des peuples quand où on commence à confondre l'étranger avec l'ennemi? Vous faites quand même cette exposition, on a l'impression, à propos, à une époque sombre.
Alors, les temps sombres, l'expression de Bertolt Brecht, reprise par Hannah Arendt, oui, nous vivons des temps sombres. Sombres, c'est-à-dire sombres comme le plomb, justement. Le plomb, c'est sombre. Sombre comme des chapes de plomb. Je parlais d'Idoménie parce que, en effet, c'était une coïncidence historique. Au moment où on m'a demandé de rendre mon texte de l'introduction de ce catalogue, c'était en février-mars dernier. Bon, Idoménie, il y avait 15 000 réfugiés, il y avait, voilà. En même temps, j'ai des contacts très précis avec des gens qui travaillent dans le nord de la Grèce, à Thessalonique, en particulier une femme écrivain extraordinaire qui s'appelle Niki Giannari, qui fait partie d'un groupe qui s'appelle l'hôpital social de Thessalonique. Ça veut dire que tous les gens qui n'ont pas la sécurité sociale, les tziganes, les réfugiés, etc., peuvent venir se faire soigner gratuitement par des médecins bénévoles, etc. Cette femme a fait un calendrier. Vous savez, les associations comme ça, militantes, ils font des calendriers. Elle a fait un calendrier, mais sublime. Et dans cette introduction au catalogue, non seulement je rends compte de cette situation à Idomeni, mais après avoir montré les dessins de Goya, qui sont de toute façon ma source d'inspiration fondamentale, bah, j'ai montré une page de ce calendrier de, d'Idomeni. Donc cette femme auteur, elle va découvrir, elle va être très gênée d'ailleurs sans doute de se voir. Mais elle a fait un travail magnifique et sur l'image qui est montrée, eh bien on voit des...
Encore des étoffes soulevées.
Oui, c'est des étoffes soulevées. Et ben, c'est des bénévoles qui agitent des bouées de sauvetage pour dire à des... Là, c'est un mytilène, pour dire à des gens qui sont dans la mer, mais voilà, on vous apporte le matériel. Donc, si vous voulez, il y a cette espèce d'urgence qui, évidemment, nous bouleverse quand nous, on est dans les murs blancs d'une belle institution artistique et qu'on apprend que Ai Weiwei, il fait son business. Voilà, moi, j'aime pas du tout. Mais on défend l'art. L'art n'est pas coupable de ce qui se passe à Idomeni. Mais nous devons établir un rapport. Nous devons établir un rapport, au moins. Et il existe des artistes qui ont ce souci-là. Et ces artistes-là m'intéressent.
Comme nous regardons l'art de tous les temps, vous regardez depuis toujours l'art de tous les temps.
Tout à fait, comme vous d'ailleurs.
Oui,
comme vous,
oui. Nous aimons ça, oui, comme oui, la préhistoire, oui. Comme aujourd'hui. Oui. Vous parlez à l'instant de Goya qui vous inspire et qui est très important dans cette exposition comme il l'a été dans vos expositions précédentes.
Oui.
Et les images que vous avez choisies de Goya, c'est un personnage qui lève les bras. Et donc il y a écrit « Tu n'arriveras à rien en criant », c'est le titre de ce dessin. L'autre, c'est un personnage qui porte un poids gigantesque et qui s'appelle le portefeu.
Oui.
Et porter. Oui. On a l'impression que vous apportez, que vous donnez une importance particulière à ce verbe « porter ». Qu'est-ce qu'on porte quand on n'est pas seulement Atlas, mais qu'on est un être humain ? Et qu'est-ce que l'art nous dit que nous portons ?
On porte et on supporte. Il y a cette tradition juive des justes, vous savez,
oui.
Les 36 justes, qui ont sur les épaules le poids de toute la souffrance des autres hommes. Il y a la mythologie grecque d'Atlas, qui porte sur ses épaules comme la punition d'un soulèvement, parce que Atlas, c'est un titan, il s'est soulevé contre les dieux de l'Olympe, il a perdu, il est donc condamné comme son frère Prométhée, lui qui aura le froid arraché par un vautour sur le mont Caucase, lui de l'autre côté du monde, c'est-à-dire du côté du détroit de Gibraltar, il est condamné à porter la sphère céleste. C'est pour ça que je représente le portefeuille qui était en fait le premier dessin de l'exposition Atlas à Madrid. Et moi, je prends le dessin de cet homme qui lève les bras en disant, ben voilà la suite. La suite, que ça serve ou que ça serve pas. Goya dit, non, ça ne te servira à rien parce que tu restes un prolétaire et même un lumpen prolétaire et tu vas perdre. Un soulèvement, en général, ça rate. Il faut bien le savoir, ça. Une révolution, ça peut réussir. L'exposition, elle est sur les soulèvements, pas sur la révolution. Donc, souvent, un soulèvement rate. Mais ce qui compte, c'est ce qui se transmet là-dedans. C'est que la somme, je crois que c'est Judith Butler qui le dit dans un des textes que j'ai sollicité, Judith Butler, entre autres. Elle dit, chaque soulèvement échoue, mais la somme des soulèvements réussit.
C'est ce que vous laissez entendre lorsque vous parlez des deux titans.
Oui.
Ces deux titans martyrs à jamais sont ceux qui nous ont transmis et donné.
Voilà, là où Prométhée, il a été puni, mais il nous l'a transmis le feu. Nous l'avons, nous les hommes, si je suis le récit mythologique. Donc il a réussi quelque chose d'extrêmement important, même s'il est puni par les dieux. C'est-à-dire que les dieux eux-mêmes n'ont pas pu en faire... En fait, les dieux n'ont pas pu revenir à un état d'avant. Ça y est, il nous l'a transmis le feu, nous l'avons. Eh bien, à nous d'en faire quelque chose.
Vous avez fait l'exposition comme on fait un montage de film ?
De toute façon, je ne travaille que par montage, puisqu'il me semble qu'une image toute seule, c'est comme un mot tout seul. Il n'y a pas de mot absolu, il n'y a pas de mot à isoler. Il faut faire des phrases, il faut donc monter des mots ensemble. Les images, c'est pareil, aussi bien dans des livres que dans des expositions. et le grand plaisir que j'ai là, dans les jours, juste maintenant, là, dès que je vais finir cette exposition, je vais retourner, accrocher mes œuvres sur les murs. C'est un plaisir immense parce que, si vous voulez, c'est du montage en grandeur nature. Je parle de la grandeur nature des œuvres elles-mêmes.
Bien sûr.
Et monter, c'est donner sens. C'est donner du sens. Comme, si vous employez le mot, disons, le mot peuple, tout seul, ça peut vouloir dire les choses les pires et les choses les meilleures. Donc, il faut savoir si le mot peuple, il est employé dans un poème de René Char ou dans un discours de Goebbels. Voilà, il faut savoir. Ça dépend des phrases.
Dieu sait que ça n'est pas le même, même sens. Le soulèvement, quand il échoue, crée des martyrs, comme on le disait tout à l'heure. L'image du martyr est surutilisée et ambiguë aujourd'hui.
Ah, c'est drôle. Vous me posez une question qui m'est tout à fait inattendue. J'ai pas pensé une seconde à cette question du martyr, bien que dans l'exposition, au bout d'un moment... Bon, l'exposition se déroule comme ça. Il y a des tempêtes d'abord, ensuite il y a des gestes humains comme les bras qui se lèvent, ensuite il y a les mots qui se libèrent, notamment une section consacrée, qui donne sa part belle à ce que j'appelle les insurrections poétiques. Et là d'ailleurs,
et les mots exclamés.
Voilà, mais là il me faut aussi faire référence et hommage à l'exposition dont vous-même avez été le commissaire, qui s'appelait Soulèvement, mais qui était une exposition sur l'artiste et collectionneur Jean-Jacques Lebel. Mais c'est vrai que pour lui, la question de l'insurrection poétique a été fondamentale. Il a joué un rôle très important dans cette idée, avec tout ce qui s'est passé, poésie sonore, etc.
Il y avait un point qui vous est commun, peut-être, qui est intéressant, et j'aimerais que vous m'en parliez, c'était celui de la barricade. La barricade devient presque une expression plastique de la du collectif.
Et c'est vrai qu'il fabrique des sortes de barricades d'une certaine façon, lui, en tant qu'artiste, mais c'est vrai que le thème de la barricade, la barricade, ça vient de barrique, c'est une sorte de chose faite de briques et de broc, hein, la barricade. Il y a un très beau livre de Éric Hazan là-dessus, sur la barricade comme objet révolutionnaire. Si vous voulez, on a ce point commun, bien sûr, mais il est vrai que moi, mon point de vue est beaucoup plus, d'une part modeste, hein, je ne suis pas un artiste et je ne mets pas, le soulèvement n'est pas ma marque de fabrique à moi. D'ailleurs, j'ai demandé aux éditions Gallimard et au Jeu de Paume que mon nom n'apparaisse pas sur la couverture du catalogue. Je suis l'auteur de ce livre, donc il apparaît sur la page de titre. Mais j'ai demandé instamment que... Mais là, je suis d'accord avec Jean-Jacques Lebel. Hein. Il parlait, je crois qu'il faisait référence à Deleuze et Guattari. Donc la question des agencements collectifs d'énonciation, comme disent Deleuze et Guattari. Et ben voilà, c'est collectif. Soulèvement ne m'appartient pas, n'appartient à personne. Et j'espère que moi, ma petite exposition et mon petit catalogue, qui fait quand même 450 pages, mais c'est un outil collectif. C'est pas du tout une prise d'auteur, ni de hauteur. Je n'ai pas de hauteur vis-à-vis de ce sujet. J'essaie d'être...
Je vous ai interrompu sur les...
Je vous en prie.
Sur les martyrs.
Oui,
parce
alors...
Vous trouviez ça un petit peu...
Par exemple, il va y avoir dans l'exposition une magnifique lithographie de Manet qui représente un homme qui est mort devant sa barricade.
Et il y a beaucoup de photographies...
Oui, mais alors c'est drôle parce que je n'ai pas le... Ça ne m'est pas venu à l'esprit. C'est pour ça que j'ai dit que vous m'avez surpris. La question du martyr, parce qu'elle est extrêmement connotée religieusement, hein, aussi bien du côté chrétien que
du côté
musulman.
Oui, parce qu'en fait, on étend exagérément probablement le mot martyr. On n'est pas toujours martyr quand on est tué, ou bien si.
Tout à fait d'accord.
Je ne sais pas.
Non, je suis bien d'accord. On n'est pas du tout martyr quand on est tué. Pour qu'on soit martyr, il faut que la mort soit le témoignage d'une fin des temps. C'est-à-dire d'un message théologique, d'une certaine façon. Alors, cette exposition n'a rien de théologique. C'est pour ça que votre question m'a surpris, en fait.
Oui, parce que le mot martyr vous a déstabilisé, alors qu'il y a des photographies, Alvarez de Toledo et autres, sur ce sujet-là.
Alvarez Bravo,
excusez-moi.
Alvarez de Toledo, c'est une...
Oui, c'est une historienne.
C'est une grande dame. Oui. Mais oui, la photo d'Alvarez Bravo, c'est un Mexicain, un jeune Mexicain mort, lui aussi, pas loin d'une barricade, sans doute. C'est une photo qui a été... adoré par André Breton, hein, bien sûr, mais sa valeur emblématique,
dans le Minotaur, en effet.
Oui, voilà, sa valeur emblématique, elle vient beaucoup de sa réception, mais oui, peut-être la question du martyr à réfléchir.
C'est bien, on a encore du travail.
Toujours.
Je vous propose d'écouter Georges Bataille, vous m'en parliez tout à l'heure, dans son texte sur Nietzsche intitulé « Volonté de chance », et il nous parle de la puissance véritable de la danse dionysiaque qui soulève les âmes et les corps, très loin de toutes les volontés de pouvoir. Ça rejoint peut-être un chapitre sur le désir qui est dans ce catalogue.
Il me faut représenter la divinité de Dionysos comme la plus étrangère au souci de charger le divin d'autorité. C'est, semble-t-il, le divin à l'état pur, que n'a pas altéré l'obsession d'éterniser un ordre donné. Le divin est en Dionysos aux antipodes du Père de l'Évangile. Il est la toute-puissance, il est l'innocence de l'instant. La poésie qu'il incarne n'est pas la mélancolie du poète, ni l'extase, le silence d'un solitaire. Il n'est pas l'isolé, mais la foule, étant moins qu'un être, une barrière renversée. L'air est autour de lui strident de cris, de rires, de baisers, quand la torche fumeuse de la nuit, voilant les faces, les éclaire. Car il n'est rien que le cortège d'aimants ne foule aux pieds. Georges Bataille, sur Nietzsche, Volonté de chance, 1945.
Cher Georges Liberman, nous parlons sur l'émission Les Regardeurs de votre exposition Soulèvement au Musée du Jeu de Paume à Paris. Cher Georges Duberman, vous avez entendu comme moi ce texte de Georges Bataille, on y sent l'embrasement que vous évoquez, mais on y sent aussi quelque chose qui est peut-être difficile à accepter, c'est que la foule est démente, le cortège dément. Ça négative beaucoup quelque chose qui est plutôt vu d'une façon positive dans votre exposition. Est-ce que vous me comprenez?
Oui, j'espère. D'ailleurs, je remarque que il y a un jeu de mots dans ce texte entre foule, la foule, le cortège, c'est une foule, et elle foule aux pieds. La foule. C'est très beau. Cette folie, qu'est-ce que c'est que le cortège dément? Qu'est-ce que c'est que cette folie? C'est ce que Bataille peut appeler l'expérience intérieure, c'est ce qu'il peut appeler l'extase. D'ailleurs, ce mot extase, il est commun à Eisenstein. Il est quand même fantastique de savoir qu'un grand cinéaste révolutionnaire matérialiste, il a employé le mot extase tout le long de sa vie. Extase, ça veut dire « on sort de sa place ». C'est ça, une révolution, un soulèvement. C'est une extase. Vous sortez de votre fauteuil habituel, vous sortez de vous-même, vous sortez de votre confort ou vous sortez de votre aliénation. Simplement, là où Bataille et Eisenstein, une fois de plus, se rejoignent, c'est que le soulèvement n'est pas une lévitation. Vous savez, comme je m'intéresse au soulèvement depuis un moment, j'ai beaucoup d'amis qui me disent « Tiens, regarde une image, c'est quelqu'un qui vole en l'air, etc. » On me donne souvent des images de lévitation, mais c'est pas du tout ça. Se soulever, c'est se soulever en restant dans l'immanence. C'est ça que veut dire Bataille. Vous restez dans l'immanence. Ce qu'il appelle le divin à l'état pur, c'est justement du divin qui n'est ni pur, ni en haut.
Il est en vous.
Il est en vous, il est à même le sol, il est à même la boue, il est à même l'impureté. Ben, Bataille a une grande théorie de l'impureté et il ajoute dans ce texte que j'ai sous les yeux l'innocence de l'instant. Et là, on est du côté de Pasolini, évidemment.
Et bon, la confiance de l'enfant dont on entendait parler tout à l'heure.
Et tout à fait, exactement. C'est le même motif. Donc, cette idée d'une question dionysiaque, je parlais tout à l'heure de lyrisme ou de romantisme révolutionnaire. Chez Bataille, il y a quelque chose d'un dionysisme révolutionnaire. Mais en aucun cas, ce n'est une sorte de religion transcendante. Mmh. Voilà. C'est moins transcendant qu'une proposition, je dirais, stalinienne.
Alors, en effet, mais dans les chapitres de votre exposition, il y a un chapitre qui s'appelle « Par conflit », vous rajoutez « embrasé ». Oui. Et là, c'est « embrasé ». C'est presque un mot d'amour, embrasé. On Évidemment. Est embrasé par le désir, etc. Et justement, vous parlez après de désir oui. indestructible. Oui. Donc, amour et désir au cœur de la Révolution.
Complètement. Alors, le motif du désir, depuis que je travaille, j'ai commencé par... Vous vous souvenez peut-être d'un travail sur les hystériques de Charcot, bien etc. Entendu. Donc c'était lié à une lecture de Freud, évidemment. Freud, à la fin de son grand et premier grand livre sur les rêves, la dernière phrase de ce livre, c'est la phrase suivante. Plus ou moins, c'est une phrase assez compliquée, mais je vais la simplifier. Premièrement, le désir est indestructible. Jamais vous ne détruirez le désir. Deuxièmement, il n'y a pas de désir sans mémoire. Donc, j'essaye, si vous voulez, sur le plan d'une espèce d'anthropologie politique actuellement, qui passe par les images, bien sûr, j'essaye de prendre la mesure de cette proposition. Premièrement, le désir, il y en aura toujours, c'est-à-dire tous les murs que vous construirez, il y aura toujours quelqu'un qui voudra faire le mur, comme on dit, et comme on le voit si magnifiquement dans le film de Jean Vigo, par exemple, Zéro de conduite, ils font le mur. Bon, dès qu'on dresse un mur, les gens font le mur, heureusement.
Heureusement.
Le désir est indestructible. Deuxièmement, et c'est là où peut-être je m'adresse à des gens plus jeunes, au fond, mais mon lecteur idéal ou mon spectateur idéal, c'est quelqu'un qui n'a pas la connaissance de Baudelaire, du salut public et tout ça. C'est de lui montrer, de lui dire, ton désir, tu ne peux pas lui donner toute sa force si tu ne te fabriques pas une mémoire alternative, bien sûr. C'est pas une mémoire de commémoration, c'est pas une mémoire obligatoire, mais tu dois, d'une certaine façon, voir la mémoire qui est en toi pour que ce désir soit le plus puissant possible. Mais c'est ça la leçon de Freud. Il n'y a pas de désir sans mémoire. Toute la question est de savoir laquelle on choisit. Puisque la mémoire, on se la fabrique soi-même. Donc là, tout à coup, on arrive sur le plan éthique et politique. Comment fabriquer sa mémoire?
C'est très important. Il y a quand vous avez évoqué ces questions du soulèvement dans des expositions précédentes en allant sur d'autres voies, je pense en particulier à l'exposition que vous aviez conçue pour le Frénois avec Alain Fleischer, hein, donc.
Et pour vous.
Et pour nous, le Palais de Tokyo.
Au Palais de Tokyo, oui.
Les questions étaient moins justement l'embrasement, le désir, la mémoire si probablement, que l'alarme et la plainte. L'alarme au sens d'être alarmé, et vous faisiez un jeu de mots, peut-être que vous pouvez nous rappeler comment ça, et pourquoi est-ce que c'était finalement moins embrasé, moins brûlé par le désir dans cette expression que vous aviez à ce moment-là.
Oui, on me disait à ce moment-là, mais pourquoi tu te préoccupes tellement des lamentations, des gens qui pleurent et tout ça? Moi j'avance petit à petit, donc je raconte une histoire. Donc, quelqu'un est mort de mort injuste, on pleure autour de lui. C'est normal. Et ça fait appel à une mémoire, justement, anthropologique. Je veux dire que la lamentation, c'est un comportement fondamental de l'humanité. C'est dans la tragédie grecque, c'est partout. Mon propos dans l'exposition que nous avons fait ensemble, au Palais de Tokyo, ce n'était pas tant de parler de la lamentation que de dire en quoi la lamentation a une sorte d'énergie vitale qui fait que très vite, on se met en colère. pour moi, là, un élément à ce moment-là qui a donné un livre entier, le livre sur Eisenstein, c'est pourquoi des vieilles femmes ainsi que des jeunes femmes sont à l'avant-garde de se mettre en colère à partir d'une lamentation sur le corps du matelot qui a été tué dans le Potemkin. Comment, en fait, c'est une féminité à la fois de la jeune militante du Bund, c'est-à-dire un groupe d'extrême-gauche juif de l'époque, 1905, et des vieilles femmes orthodoxes qui font leurs prières et tout ça. Et toutes ces femmes-là se mettent en colère, et la colère de ces femmes-là, c'est la plus efficace, c'est la plus dévastatrice, c'est la plus magnifique, ce qu'on appelle une sainte colère. Ben, si vous voulez, les madres de la place de Mai de Buenos Aires, c'est ça qu'elles ont fait. Elles n'avaient pas de pouvoir, elles ne demandaient pas le pouvoir, elles n'avaient rien, elles n'avaient pas d'armes, elles avaient juste la ténacité de dire aux autorités « J'ai le droit d'avoir des nouvelles de mon fils qui a disparu, dites-moi où il est ». Bon, elles ont fait ça pendant 20 ans. Moi, je dirais qu'elles ont changé le monde, ces femmes.
Voilà. Et elles sont passées des larmes à l'alarme. C'était cela, votre jeu de mots très, très profond. Qui était
c'est ça mon
plus
récit, en quelque sorte. Ouais. C'est ça la façon dont j'ai procédé, à partir du négatif, pour arriver vers quelque chose que je considère comme beaucoup plus vital. Et
de la plainte positif. À se plaindre, et là, c'est le soulèvement avec sa joie, ses drames.
Bravo. Et c'est exactement le mot que j'attendais. C'est la joie qui... Il faut fabriquer sa joie. Donc, c'est bien, bien évidemment... Vous savez l'expression de Benjamin que j'ai commentée dans un petit livre qui s'appelait « Survivance des Lucioles ». Benjamin disait « Il faut organiser notre pessimisme ». Et il ajoutait, et ça nous concerne en tant que nous sommes intéressés par les images et par l'art, il ajoutait « Et l'espace des images peut être l'espace pour organiser ce pessimisme ». D'où l'importance de... Oui, voilà, en général, je ne parle pas seulement des œuvres d'art, mais en général de l'activité de visuel pour imaginer quelque chose au-delà du pur et simple et désespéré pessimisme.
Mais comme Baudelaire, vous n'avez pas une relation à l'image seulement culturelle, elle est vous aussi culturelle. Vous révérez les images pour ce pouvoir-là, non ?
Ouh là là, là vous me posez une question. J'imagine qu'on est à la fin de l'émission.
Il
là,
vous reste
plus
au moins 3 minutes.
Oui. Non, je dirais pas que c'est une relation de culte, mais il faudrait avoir une longue conversation tous les deux sur ce que vous appelez par culte, puisqu'il me semble qu'un culte, c'est plutôt une forme fixe, tandis que je dirais, moi, que la vitalité de ces images soulevantes ou soulevées, c'est une vitalité à chaque fois réinventée. C'est-à-dire, on se réinvente à chaque fois une règle du jeu. Bien sûr, on a parlé des lamentations. C'est un culte, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais je pense que c'est pareil, il ne faut pas fixer la mémoire, il faut la mettre en mouvement et donc à chaque fois transformer la forme qui va... Un culte, c'est une forme déjà donnée. Vous ne pouvez pas inventer un nouveau culte tous les jours.
Pourquoi l'art est-il si bien placé dans votre réflexion pour nous parler de l'état du monde ?
Alors, il est bien et mal placé. Il est les deux. L'art n'a pas de valeur en soi, à mes yeux. Je suis né dans l'art, mon père était peintre, j'aime l'art de toute ma vie, etc. En même temps, l'art ne nous sauve absolument de rien. Et l'art ne porte pas avec lui une valeur. Je dis ça à l'époque du marché de l'art. Et justement, quand il a cette valeur-là, il devient une chose mal valorisée. Voilà, je déteste cet aspect-là de l'art. Quelquefois même, ce mot m'écorche la bouche quand, justement, je pense à Idoménie. Voilà, en même temps, bien sûr, on ne va pas abandonner l'art à son marché. L'art est bien plus... Voilà, donc il faut aller vers les œuvres ou les artistes qui se posent les bonnes questions. Si quelqu'un prend un copyright exclusif sur l'emploi d'un pigment, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'on fait avec le noir, toi, différents artistes.
Ou le bleu.
Ou le bleu, bien sûr.
Et l'impuissance de l'art vous paraît, ou la puissance de l'art, vous diriez quoi, l'impuissance ou la puissance de l'art?
Nous arrivons à la fin de cette émission et là, je m'aperçois que j'ai oublié de vous parler de la plus importante distinction, je dirais, conceptuelle qui m'a beaucoup aidé dans l'élaboration de cette pensée, de cette exposition. C'est la distinction entre puissance et pouvoir. Ça vient de Spinoza, ça vient de Nietzsche et ça a été génialement synthétisé par Gilles Deleuze. L'art a de la puissance. Si l'art est fait pour le pouvoir, il perd sa puissance. Quelqu'un qui cherche le pouvoir perd sa puissance. D'où la grande question. C'est là où je dis que je ne suis pas un philosophe politique dans la mesure où je n'ai pas de solution à proposer. Mais il est vrai que le soulèvement, c'est un débordement de puissance. Mais on a bien compris que très souvent, les soulèvements échouent à prendre le pouvoir. Et quand ils le prennent, il faut se soulever à nouveau. C'est-à-dire, par exemple, il y a le Kronstadt, en 1921, c'est un soulèvement qui survit à une révolution. Vous voyez ce mouvement perpétuel entre révolution et soulèvement. C'est très compliqué parce qu'en fait, ça, en termes de philosophie politique, ça pose la question du rapport entre, grosso modo, je vais très vite, entre les communistes et les anarchistes. Et le dernier mot peut-être à donner, c'est à un poète, c'est André Breton, quand il dit qu'il faudrait, au fond, il dit, ce qui flotte au-dessus de nous, c'est sublime ça. C'est un drapeau tour à tour rouge et noir.
C'était Les Regardeurs, en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Aujourd'hui, nous avons observé une œuvre de Gustave Courbet, un dessin au fusain de 1848 intitulé « Révolutionnaire sur une barricade » et de manière plus générale et plus passionnante, nous avons tenté d'analyser certaines des formes de représentation des résistances, révolutions, rébellions, révoltes et autres soulèvements, mais en fait du soulèvement proprement dit, avec notre invité, le regardeur Georges Didier Berman, commissaire d'une exposition intitulée « Soulèvement ». Vous retrouverez toutes les références des livres et des musiques sur le site franceculture.fr. Attaché d'émission et site internet Sylvia Favre, lecture des textes Gabriel Dufay, à la technique Jean-Richard Dufour, réalisation Franck Lilin, merci Franck, Les Regardeurs, une émission de Jean Deloisy et Sandra Adam, merci beaucoup Sandra d'avoir si bien préparé cette émission. Propageant l'exclusion, exploite les plus pauvres avant la case d'expulsion. Pour la chasse à l'enfant, des CRS dans les écoles. Wesh, les voiles, les dérangent, mais pas les flics dans les écoles. Si on était ensemble, ils ne pourraient plus semer le chaos. Nous on croit pas en leur justice ou on croit en celle de là-haut. Mon frère, ne perds pas la foi, tant qu'ils n'y croient plus, on a besoin de toi. Ma soeur, on a besoin de toi, réveillez-vous. Ils nous ont déclaré la guerre, réveillez-vous. Peuple du monde et enfants de la terre, réveillez-vous. Avant le point de nos retours, on aura besoin de tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Sera pire encore. Réveillez-vous avant qu'ils nous mettent des puces dans le corps. Réveillez-vous, c'est toutes nos vies qui sont en jeu. Réveillez-vous, hey, justice et la tempête a commencé avant même le combat. Trop de frères ont renoncé. Dis-moi, qu'est-ce qu'on attend pour construire sans eux? Que le soleil disparaisse ou que leurs armées soient des clones. Air du nucléaire saccageant la création. Processus établi de déshumanisation. Esprit rempli de subliminal bombardement. Les plus gros médias appartiennent aux usines d'armement. Alors comprendre à quel monde nous vivons. Le savoir est une arme à l'heure où ils brevettent le vivant. La science et la recherche au service de la peuple. Car un virus c'est mieux qu'une guerre pour exterminer un peuple. N'ayons pas peur, ayons confiance en nous-mêmes. Même la vie est avec nous, oui la vie est avec nous. Mon frère, ma soeur, on est ensemble. Si oui on meurt ensemble, allez on a plus le temps. Réveillez-vous, ils nous ont déclaré la guerre. Réveillez-vous, peuple du monde et enfants de la terre. Réveillez-vous, avant le point de nos retours. On aura besoin de tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout. Réveillez-vous, car demain sera pire encore. Réveillez-vous, avant qu'ils nous mettent des puces dans le corps. Réveillez-vous, c'est toutes nos vies qui sont en jeu. Réveillez-vous, réveillez-vous.
système n'est rien sans nous. À nous de reprendre l'espace public, de récupérer nos rues, de reprendre en main nos quartiers. On n'est pas le système en voulant nous détruire, on est le système en construisant sans lui. Alors construisons, reprenons nos vies en main, car les mœurs sont pleines de sang. Échangeons, on a tous quelque chose à apporter à l'autre. Et qu'on n'a plus nos compétences qu'à Babylon. Qu'on en est à la résistance qui est en route. On fait tous partie de la solution. N'oublions pas qu'on est le monde. Que s'ils ont le chiffre, on est plus fort, on a le monde. Et un peuple uni ne sera jamais vaincu.